91 FM vous présente les talents d'aujourd'hui et de demain.
Tout de suite,
leur interview sur 91 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Passion Livre en direct du 2e Salon du Livre Dimension de Palaiseau. Aujourd'hui, nous posons nos micros au cœur de cet événement incontournable pour les amoureux des mots, des histoires et de l'imaginaire. Pendant toutes ces émissions, nous allons vous faire vivre l'ambiance du salon comme si vous y étiez. Rencontres avec des auteurs, découvertes littéraires et confidences de passionnés, des pages qui se tournent, des voix qui racontent, des regards qui brillent. La littérature prend vie ici et on vous emmène avec nous. Restez à l'écoute, ça commence maintenant.
Bonjour, nous recevons à notre table l'auteur Norman Jangot pour son roman L'œuvre du serpent. Norman Jangot, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous avez été bercé depuis votre enfance par les films fantastiques et marqué par des lectures de romans tels que ceux de René Barjavel ou de Stephen King. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, comme les Fantastiques Aventures d'Athanase, qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals, ainsi que des web-séries. Parallèlement, vous avez monté deux groupes de rock français, le Dive Bar, si je prononce bien,
Dive Bar, c'est ça.
Et Boulevard des Allongés, dont vous parlez d'ailleurs dans votre roman.
Oui, j'ai une petite référence.
Vous avez pu exprimer votre penchant pour donc l'étrange, l'onirique et la poésie. Vous ne vous êtes mis que très tardivement à l'écriture de nouvelles. Et après quelques publications, vous avez sorti votre premier roman, Le 7e Continent, en octobre 2019. Roman qui est également nommé dans L'œuvre du serpent, il me semble.
Oui, je m'auto-référence, c'est bien, c'est pratique.
Vous prenez vos propres références, d'accord. Donc, depuis, vous avez écrit plusieurs autres romans. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernière publication, L'œuvre du serpent, aux éditions Héloïse d'Ormesson, un polar d'anticipation qui est un roman intense sur le pouvoir, la manipulation et les dilemmes moraux. Vous avez écrit des scénarios auparavant pour vos courts-métrages. Et comment passe-t-on de l'écriture d'un film ou d'un court-métrage à l'écriture d'un roman ?
Alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose parce que ce n'est pas vrai. Par contre, ça m'a appris à faire des plans, à construire une histoire, à savoir pourquoi on fait une histoire, parce que c'est plein de questions qu'il faut se poser, comment on construit un personnage, etc. Donc ça m'a appris à me renseigner aussi sur tous les manuels d'écriture, etc. J'ai été confronté, alors ça c'est intéressant quand on est réalisateur, on est confronté au comédien, on a un script, on arrive, on le présente, on est sûr de notre coup, et puis l'acteur il fait mais c'est pas possible ça, je peux pas jouer
d'accord.
Ça, c'est pas logique.
D'accord.
Et toi tu fais oui mais non t'as raison, d'accord. Et ça nous apprend un petit peu à vraiment avoir du recul sur ce qu'on fait, surtout que quand on fait un script, il est lu, relu par plein de gens, modifié. On a la version numéro 17 qui sort et le film est remodifié aussi. Donc tout ça, ça m'a aidé à avoir énormément de recul sur mes histoires. Après, le reste, c'est juste un mode d'expression différent, mais voilà, ça reste une histoire.
Est-ce qu'on peut dire que ça influence aussi sur le rythme, la façon dont vous commencez votre histoire ? Parce que quand votre roman débute, on est tout de suite plongé dans une action, dans une enquête et qui en plus, pour moi, décrit très bien le sujet de synchronicité dont vous allez parler. Donc, est-ce que ça vous aide à ce niveau-là ?
Oui, bah complètement. Alors, je fais un petit pas de côté sur la musique. La musique m'aide beaucoup pour le rythme des mots,
oui.
Parce que j'ai eu cette formation-là aussi. Et après, effectivement, moi, on m'a toujours dit que j'ai un style très cinématographique. Parce que moi, ma première passion, c'est le cinéma. Donc, j'ai certainement un style très visuel. Je décris tout ce qui se passe et j'écris avec de la musique, j'ai une playlist dédiée, donc je suis vraiment plongé comme dans un film. Et après, effectivement, ça c'est une des questions qu'on se pose en écriture, il y a une règle, c'est voilà mon concept. C'est souvent une règle qu'on donne, j'ai un concept, il faut tout de suite identifier les problèmes de ce concept. C'est-à-dire, moi j'ai un concept, c'est je vais parler de policiers qui ont un don particulier, ils peuvent retrouver les criminels grâce à une mécanique un peu spéciale, ils vont suivre des signes de synchronicité, donc de coïncidence, et les relier entre elles. Mon problème, c'est comment je le fais comprendre au lecteur assez vite. Et donc du coup, il fallait à tout prix une scène d'introduction qui montre clairement comment le système fonctionne pour que le lecteur ne soit pas complètement dépassé, voilà. Donc ça, c'est aussi des règles qu'on apprend pour bien...
En fait, ce roman, il est speed de la première page à la dernière page. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et ce que j'expliquais à mes collègues, c'est que moi, qui ne suis pas un lecteur, je l'ai lu en 24 heures, quoi. J'ai été happé par le roman, quoi. Franchement, et j'ai trouvé ça... Ça s'arrête pas. Et justement, en parlant de tous ces phénomènes, j'ai une petite question perso. En fait, vous êtes fan de Matrix et un peu aussi de Alice au Pays des Merveilles, non? Parce que le lapin, aller chercher le lapin, tout ça, j'avais l'impression qu'il y avait un peu des références quand même.
Oui, bah oui, Matrix, hein, c'est un de mes films favoris.
Voilà, effectivement, ça se ressent beaucoup dans le roman.
Et justement, c'est un film qui a la particularité d'amener le spectateur vers quelque chose qui est, on peut se dire, de l'action pure, de la science-fiction, et là, les gens ils arrivent, machin et tout, mais en fait Matrix c'est un film qui est rempli de sous-textes, rempli de métaphores, et ça c'est hyper intéressant, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire quand vous disiez que voilà, il se passe toujours quelque chose, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que les gens ils décrochent pas pour les emmener moi où je veux les emmener, et faire insuffler tous les concepts qu'il y a.
Et en plus, il y a un talent dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas un vrai héros, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui apparaissent dans ce roman et qui permettent justement de faire toute cette histoire tout au long des pages et de retrouver, d'avoir des rebondissements, du suspense. Enfin, franchement, moi, j'ai adoré, quoi. Franchement, vraiment.
Ben merci, ça me touche.
Ouais. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire, nous faire un résumé?
Oui, alors, je peux... Oui, bien sûr. Alors, donc, on est dans un polar d'anticipation. Pour moi, c'est plus un polar parce que c'est la mécanique qui fait avancer l'intrigue. Ouais. On est dans un Paris qui a subi un cataclysme. Les bâtiments se sont effondrés. On n'est pas dans une dystopie non plus. C'est pas un monde ravagé avec les gens qui se courent après avec des couteaux. Au contraire, en fait, on a des policiers qui ont développé un don, celui de pouvoir retrouver n'importe quel criminel grâce aux synchronicités. Donc ils vont suivre les signes avec une méthode, ils vont voir un lapin blanc, effectivement, sur une publicité, ils vont suivre le lapin blanc, hop là, ils vont suivre les signes et ils vont retrouver les criminels. Donc voilà, donc on va suivre des policiers qui ont ce don, et le roman commence avec un policier qui est excellent dans ce don, qui excelle dans sa performance, qui va perdre l'usage le mettre à la retraite et après la vraie histoire commence le jour où on va se rendre compte qu'il y a une sorte de serial killer qui opère et qui a lui aussi le don et qui est donc indétectable, et
donc
du coup ils vont devoir
fonctionnent plus
et voilà donc ils vont devoir faire appel au premier héros qu'on a vu, effectivement, et les héros sont assez...
On en revient aux bonnes vieilles méthodes, finalement.
Oui, bah voilà.
De toute façon, ça commence comme ça, hein, le roman, c'est direct dans le bus à 100 km/h, quoi. C'est-à-dire, ça part, bam, et voilà, et c'est... ça y va tout de suite, quoi. Il n'y a pas de...
Ça donne envie, en tout cas,
il n'y a pas 10 pages où on essaye d'amener le truc, non.
Non, non, c'est
clair. D'entrée de jeu, ça part, quoi. Ah ouais, c'est...
Ben, ça permet effectivement de comprendre tout de suite ce qu'est la synchronicité, parce que effectivement, ça pouvait être quelque chose dont on n'a pas connaissance, forcément. Est-ce que vous êtes inspiré du coup de Carl Jung, que vous nommez aussi et dont vous présentez quelques phrases dans votre roman?
Alors moi je connaissais déjà le terme d'avant.
D'accord.
Parce que c'est toujours intriguant, on se dit mais qu'est-ce que c'est?
Oui.
Moi ça vient, je l'explique à la fin du roman, en fait c'était au début de ma relation avec ma copine, on avait des synchronicités tout le temps.
C'est incroyable. Entre vous deux seulement ou...
Bah oui, nous deux. Oui, bah oui. Les dates, les chansons, ah c'est incroyable. Enfin, voilà, c'était. Et un jour, on s'est dit, mais il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose avec ça. Et on a creusé le sujet. Et ce qui est drôle, c'est une petite anecdote. On a creusé le sujet dans un salon de thé à Poitiers. On a eu l'idée dans ce salon de thé. Donc c'est presque le même salon du début du roman.
Roman.
Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est retourné au salon de thé. Il n'existe plus, à la place c'est une librairie.
Non,
c'est pas incroyable.
Oui, parce qu'elle écrit, je crois, elle aussi.
Elle écrit aussi, oui.
Voilà. D'accord.
Ouais,
ouais.
De toute façon, même si on est dans un Paris ruiné par une catastrophe et qu'il se passe plein de choses, on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de références personnelles dans le livre. Enfin, moi, oui. Je l'ai ressenti comme ça. Voilà, on sent que c'était écrit le roman, enfin le policier, mais il y a quand même pas mal de choses où c'est du vécu indirectement.
Oui, oui, j'essaie toujours de me cacher derrière mes personnages, machin, donc certainement par pudeur, je sais pas, mais...
Alors comme disait Tony tout à l'heure, moi j'ai bien aimé le fait qu'au bout d'un moment, sans dévoiler l'histoire, mais il y a un livre qui est trouvé par hasard dans des décombres, c'est un de vos livres, j'ai dit ça, c'est la classe auto-promo dans le bouquin, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, parce que c'est rare en fait que des auteurs intègrent leur propre roman, enfin un autre roman dans l'histoire, quoi.
Mais je l'ai souvent vu quand même, Stephen King en fait, fait énormément ce procédé.
Oui, mais Stephen King, mais après il n'y a pas...
Ouais, peut-être pas énormément, mais oui, mais j'ai toujours adoré cette autoréférence, parce qu'en fait ça inscrit ton roman dans une sorte de... Alors surtout que moi je vais parler de ce genre de concept, mais ça inscrit ton roman
dans une sorte de fix-up,
ouais, c'est ça.
Boucle temporelle.
Ouais.
Alors on voit que tous les personnages ont un rapport avec l'art. Le monde de l'art est important dans votre... Oui. C'est une vraie volonté. Enfin, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme...
Alors, ce qui se passe, c'est dans mon roman, tout s'est écroulé, mais les gens, du coup, ils reprennent possession de l'art par la rue, par le bas. En fait, il y a des tags de partout, on a des théâtres de rue, des voilà.
Et il n'y a plus de musée du Louvre, il n'y a plus de...
Voilà, j'ai essayé de tousser. Reniveler.
Il
voilà.
n'y a plus d'élite, du coup.
Il y a des élites encore dans mon roman, quand même. Mais parce que, bon, c'est très, très difficile d'imaginer un monde sans. Mais on a quand même... Voilà, j'ai essayé de rebaisser, surtout dans mon roman, dans le monde de l'art. Et il y a des personnages qui sont très attachés par ce concept. Parce que je me dis, c'est certainement par là, enfin à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais par là que les choses peuvent vraiment marcher. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment le truc qu'on balaye d'un revers de main. C'est le dernier truc qu'on va sucrer si, bah voilà, on va taper dans le budget de la culture, etc. En se disant que c'est pas vital. Mais en fait, je pense que ça l'est complètement. Et si on se dit c'est pas vital, et si on continue de voir de l'art comme un truc réservé aux élites, ou même quelque chose qui est purement de l'entertainment complet, et qu'on oublie que c'est une forme d'art qui veut dire des choses, on va se rendre compte que c'était quand même vachement important d'avoir ça, je pense.
Bah, c'est ce qu'on dit sur les premières... c'est quoi l'inverse d'une démocratie ?
Une dictature.
C'est ce qu'on dit sur les dictatures.
C'est tellement dur à dire, tu
sors pas. Corche la langue, en fait.
Ça heurte trop.
C'est ce qu'on dit sur les dictatures, c'est que ça commence à apparaître quand on commence à faire disparaître
les livres.
À couper la culture.
Moi, j'ai une petite question. Alors, c'est surtout au niveau du choix de l'éditeur. Quoi, Héloïse d'Ormesson ?
Alors, à mon niveau, je choisis pas mon éditeur.
Oui, c'est l'éditeur qui vous...
Voilà,
vous choisit.
C'est en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais déjà sorti deux romans avant dans des plus petites maisons d'édition. Et moi j'avais envie de passer un cap, j'avais envie de passer une marche, et j'avais vu passer dans Actualité le fait que Héloïse d'Ormesson se mettait à faire de la science-fiction. Je crois que le roman de Martin Lichtenberg est juste à côté, La Roche, et je me suis dit tiens, et c'est encore une synchronicité, j'ai vu passer le truc. Je venais de le finir, de le peaufiner en bêta lecture, etc. Il était prêt à envoyer. Je l'avais quasiment envoyé à personne. Et je l'ai envoyé, mais en me disant, bon, ça ne marchera pas.
On verra bien.
Et en fait, ils m'ont répondu assez vite en disant, allons-y, trop bien, quoi. Et là, très, très belle rencontre, parce que c'était... eux, ils sont tombés amoureux du texte en se disant, bah, tant pis, du genre, on s'en fout, c'est pas grave. Même si on n'en fait pas, c'est le texte qui nous plaît, et voilà, l'histoire. Et voilà.
Donc, une belle rencontre.
Oui.
À quand l'adaptation cinématographique?
Et ben justement,
parce que enfin moi je le, enfin c'est clair et net, c'est oui. Un film ça.
Ah ouais, bah ouais, je sais, j'aimerais bien un film ou une série, oui. Mais c'est pas entre mes mains quoi. Ouais. C'est voilà, mais oui, parce que je le visualise tout comme, donc effectivement avis aux intéressés.
On le souhaite,
c'est peut-être vous qui allez un jour le produire.
Peut-être l'autoproduire.
Le produire, je sais pas, mais.
En tout cas, le réaliser peut-être. Ouais.
Ouais. Héloïse d'Ormesson va finir par se dire tant pis, on fait pas de film d'habitude, mais là.
Allez, allez.
Et bah voilà.
Challenge lancé.
Allez.
Alors, premier roman c'est le troisième roman.
C'est mon troisième roman.
Ouais. Ouais. Et donc, vous avez l'intention d'en écrire
un autre ? Oui, bah, ça y est, il est déjà écrit. J'ai un tout petit peu d'avance. Donc, normalement, il sort en octobre, si tout se passe bien.
Ah, voilà. Et le thème, vous pouvez un peu...
Alors, je peux dire que c'est un polar. Donc cette fois-ci, ça va être un polar pur qui sera très sombre. C'est un roman que j'ai écrit il y a un moment. Ce que je peux dire, c'est que le personnage qui va incarner le policier, c'est certainement un de mes personnages préférés de tous ceux que j'ai créés. Et j'ai vraiment à chaque fois hâte de le retrouver. C'est comme un ami, c'est devenu un ami. Et je le sais, du coup, quand je l'écris pas, il est en stase, il attend. Et puis, et dès que je réécris, ah, oh, salut, et bah, allez, on y retourne. Et j'adore ce personnage, donc voilà, j'ai hâte que les gens le découvrent.
Donc vous allez créer des suites peut-être ?
Ah oui, c'est certain. C'est certain.
Ouais, moi j'attends la suite de ça, il en faut. Enfin, je peux pas laisser les personnages comme ça là.
Ok.
Donc,
moi je trouve qu'on a envie de savoir leur vie d'après. Enfin, je trouve, voilà, moi ça s'est arrêté trop vite.
C'est une fin ouverte, c'est
non, c'est pas une fin ouverte, mais
c'est juste que les personnages sont en suspens.
On s'attache vachement aux personnages du livre, et on s'attache à
et même l'univers
et à l'univers et tout, et voilà, et on se dit ah mince, ça s'arrête quoi. Enfin, toi, il y a pas de suite ouverte, mais voilà, mais enfin franchement, ça se dévore quoi.
Alors souvent je fais ça, mais c'est le seul roman pour lequel je l'ai pas fait. Souvent j'accompagne mes romans d'une nouvelle. Pour mes deux premiers romans, je l'ai fait, et qui sont souvent dans le même univers, qui rajoutent encore quelque chose. J'ai une idée de nouvelle pour celui-là. Voilà.
Et que vous publiez comment, enfin, vous,
eh ben,
vous
alors, à chaque fois, dans ma première maison d'édition, c'est une petite nouvelle qui est publiée toute seule.
D'accord.
Dans la deuxième, elle est en accès numérique. Et là, on sait, voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore. En tout cas, l'idée est dans la tête.
D'accord. Et peut-être une dernière question. En fait, vous dites que ce livre, finalement, aurait pu faire l'objet de romans que vous auriez écrit, vous, d'un côté, et votre compagne de l'autre.
Oui, oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il, finalement, il reste quand même une chance de retourner dans cet univers et cette période ?
De toute façon, il y a toujours une chance que moi, j'y retourne dans cet univers de part, de toute façon, la nouvelle. Et après, rien ne m'empêchera de faire une suite un jour. Pourquoi pas, si je sens que c'est nécessaire. Oui. Cependant, le concept qu'on avait avec ma copine, en fait, c'était un concept d'écriture. Ce qu'on voulait, c'était on voulait pas écrire de romans dans le même univers. On voulait pas écrire de romans même avec les mêmes personnages. Par contre, c'était des romans miroirs, c'est-à-dire il y avait des thèmes miroirs, des personnages qui auraient le même nom, la même fonction, ou qui répondraient, ou la fonction répondrait, etc. Avec justement des autoréférences aux deux romans.
C'était un vrai concept.
Et c'était un concept qui aussi, dans la forme d'écriture, était intéressant parce qu'on voulait qu'il y en ait un qui écrive le plan. Et l'autre qui écrive... je reprends. On devait écrire le plan tous les deux. Donc on devait, et c'est le cas, on avait ce plan-là et le plan de son roman, elle, il est déjà fait. Et après, chacun partait dans l'écriture.
D'accord.
Comme quand les auteurs se mettent des défis comme ça, c'est Daniel Pennac avec Messieurs les Enfants et son ami qui est cinéaste, qui s'était lancé l'idée, chacun d'écrire sur ce thème-là, les adultes qui redeviennent des enfants. Et Daniel Pennac en a fait un livre, et puis il y a eu un film en même temps. Mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, le livre et le film sont pas du tout les mêmes, mais c'est ça part du même défi, quoi.
Et vous vouliez pas écrire un livre à quatre mains avec votre compagne ?
Ben non, c'était non, notre
parce que
façon.
C'est cause de séparation,
ouais.
Ça.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Mais après, c'est pas exclu qu'on le fasse un jour. Alors après, à quatre mains, qu'est-ce que ça veut dire ? En
fait, chacun. Oui, c'est ça.
Voilà, il y a énormément de formules possibles. Il faut qu'on réfléchisse à la bonne. Voilà, mais c'est pas exclu.
Ben un jour, vous aurez un signe.
Voilà, on va guetter le ciel.
Il y en a beaucoup dans le roman des signes. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est... Oh,
non. Mais alors, cette synchronicité, justement, moi qui vais dévorer le livre plus tard, est-ce que c'est, de ce que j'entends, c'est un petit peu comme quand on se dit tout le temps, ah, c'est un signe, il y a ça, puis j'ai vu ça, et puis ça encore, ou voilà ce fameux café qui devient une librairie. Vous avez du coup un peu creusé la question. Est-ce que c'est ce qu'on cherche à y voir ? Est-ce que ça vient d'où tout ça ? C'est ce qu'on a envie de trouver ? Est-ce que c'est qu'on a envie de confirmer quelque chose et on voit certaines choses ?
Oui, est-ce qu'on a tendance à surinterpréter aussi, du coup, les signes ?
Alors, moi, dans mon roman, je prends pas position. Dans mon roman, ils existent. Donc, ça, y a pas, voilà. Cependant, tous les personnages ont une quête de savoir. Il y en a un qui veut connaître quelque chose à tout prix et ça le ronge. Il y en a un qui ne veut surtout pas savoir, il préfère ne pas savoir et avancer dans la vie sans connaître les choses. Et il y en a un qui n'a même pas conscience qu'il devrait connaître quelque chose pour que ça le débloque. Ouais. Donc en fait, tout le roman a été joué sur cette quête de savoir et même le roman, j'ai essayé de le créer comme une sorte de curiosité pour le lecteur, mais justement pour que les pages défilent, on a un chapitre qui est intercalé avec une sorte d'extrait d'un journal intime. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est, etc. Donc je pousse aussi le lecteur à avoir la curiosité d'aller de page en page jusqu'au bout. Donc moi, c'est comme ça. Après, moi, je prends pas... Dans mon roman, il n'y a pas de position de est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on surinterprète ou pas.
Et puis tous les personnages le vivent différemment. Donc,
et chaque personnage a une vision différente de la chose, bien sûr.
Surtout qu'en plus, on n'est pas dans... On est dans le Paris en ruine, mais on n'est pas dans les années 2025, 2026, 2027, 2030.
On est très proche. Ça pourrait être demain.
Ça pourrait être demain.
Mais le roman est sur des proche. Années spécifiques. On est sur l'an après la catastrophe, d'accord. C'est on est, on va dire, en 29, en 21, voilà. Donc non, c'est... Et des fois, pour répondre à ta question, enfin d'après ce que j'ai lu, des fois il y a des signes qui paraissent évidents. Ils vont suivre un signe, mais ça sera peut-être pas forcément le bon signe, alors que ça paraît évident qu'il fallait le suivre.
Oh, mais c'est là, qu'est-ce que le bon signe ?
Mais voilà,
ça fait réfléchir
pour qui et comment est-ce le bon signe ?
À tous les gens qui te disent, moi je fonctionne à l'intuition, ou moi je fonctionne au signe, ou des fois quand tu te dis, c'est évident, et puis en fait quand tu réfléchis, pas forcément.
Le hasard existe-t-il ?
Tout à fait. Voilà. Et Dieu dans tout ça, Michel. Question transcendanteur.
Et
la dictature. Piche-toi de moi.
Ah mais non, mais c'est quoi, c'est tellement dur à dire.
Là, on
enfin, en tout cas, moi je trouve qu'on a tous enfin. Moi, pareil, moi je vais le prendre aussi parce que ça.
Moi, j'en entends parler depuis hier soir, donc j'ai très envie de le lire.
Parfait.
Alors on rappelle, donc c'est L'œuvre du serpent de Norman Jango qui est donc édité aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà. Merci beaucoup, Norman. Ouais, c'est ça.
Merci à vous.
Et puis, et peut-être un prochain roman.
Ah bah oui, avec plaisir.
Pour
avec plaisir.
Pour la suite. La suite.
Pour la suite. Parce que Franck tient beaucoup à la suite.
Ouais, okay, c'est bon, je m'y mets.
Il y a une petite pression là pour la suite.
La suite et l'adaptation surtout.
C'est ça, l'adaptation.
Faut pas vous arrêter là.
Il peut y avoir une vraie adaptation. Franchement, avec un pur casting, ça peut faire. Super film.
Bravo en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
See.